talent poétique, de sa verve comique et de la compassion qu'il éprouve pour les modèles de sa composition. 9 comédiens et comédiennes professionnels, 6 comédiens et comédiennes amateurs, amatrices et 16 enfants de la région du Gard interprètent l'ensemble des personnages. Le 2 et 9 septembre à 20h, le 3 et 10 septembre à 17h, sur la scène de l'Octopus à Sauve. Réservation conseillée au 06 79 88 76 10.
Personnages. Je joue un tailleur, je joue un pêcheur et un maître d'école.
Quand tu dis que c'est une pièce radiophonique, ce ne sera pas une pièce radiophonique du coup.
C'est une pièce radiophonique mise en scène qui traduit la pièce sur scène en fait, avec des éléments de décor stylisés, chantés, voilà.
Ce que je voulais savoir, puisque c'est présenté comme une pièce radiophonique, et d'un seul coup, c'est une pièce qui n'est plus radiophonique. C'est vraiment une pièce, comme tu as dit, qui est mise en scène.
Oui, entièrement mise en scène. Sa spécificité, c'est qu'il y a une cinquantaine de personnages qui sont joués par 14 comédiens à peu près. Chaque comédien ou comédienne joue plusieurs personnages.
Et le fait de jouer avec des amateurs et des enfants, ça t'a apporté quelque chose ?
De l'imprévu, oui. Quelque chose du, j'allais dire, du terroir. Une réalité quelquefois plus simple qu'une interprétation. Et puis, ça donne des registres très variés aussi, d'intonation, de voix.
Tu incarnes 3 personnages.
Oui.
Donc, automatiquement, ces 3 personnages, pour le public, il faut qu'ils soient différents.
Oui. Chaque personnage a un peu une attitude particulière. Ils ont des instruments particuliers. Ils sont proches. Ils sont très stylisés. Et on essaye de garder un équilibre entre un naturel et puis une forme de caricature. On est à la limite d'une caricature, mais on essaye de ne pas la dépasser. Rester naturel, et c'est proche de... C'est des caractères, en fait, de personnages assez quelquefois un peu hauts en couleur, en tout cas d'un petit village de pêche du pays de Galles, qui est le village natal de Dylan Thomas. Donc, en fait, c'est un hommage à son village qu'il a écrit cette pièce. La plupart des personnages, il les a côtoyés.
Il y a une certaine tendresse.
Oui, il y a une vraie tendresse, oui. Une tendresse qui est... Il les a croqués avec tendresse, mais il les a quand même croqués.
Once it happened on a day. Thank you.
Voie lactée, Dylan Thomas. Le 2 et 9 septembre à 20h. Le 3 et 10 septembre à 17h. Sur la scène de l'Octopus à Seoul. Réservation au 06 79 88 76 10.
Merci à David pour la présentation de la pièce de Dylan Thomas au Bois Lacté. La semaine prochaine, entretien avec Lorraine Lévy pour son livre « Mettrons mon choix, stérilisation contraceptive, de l'oppression à la libération », publié aux éditions Le Passager clandestin. Cinéma, La Ira de Todas las Rabias, de Laura Baumeister, le livre des solutions de Michel Gondry. Très très bonne semaine, et bien sûr, tenez bon.
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Noli obli whisky cartula mauditoris emere.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunia sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte coûte
100 euros.
Quam emere potes in libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quintesima quadragesima quinta via Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues procubus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alis queremus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Le jeune Bob, qui vient d'avoir 11 ans, pose cette question à son oncle Otto.
Et dis-moi, tonton, tous les candidats ont-ils vraiment une conscience irréprochable ?
Bob s'exprime bien. Otto, quelque peu désabusé, lui répond « Anne, nul élu n'en a ! Anne, nul élu n'en a !»
Et voilà un palindrome de Gérard Durand pour ouvrir ce magazine comme toutes les semaines. Un petit truc qui m'a chiffonné cette semaine, qui m'a quasiment tiré une petite larme, c'est en lisant Le Canard Enchaîné. Non pas en voyant le superbe dessin qu'ils avaient trouvé dans Le Canard Enchaîné sur Vladimir Poutine au Kremlin, demandant à son état-major « Vous avez pensé à envoyer des fleurs pour l'enterrement de Prigogine ?» Et l'état-major indiquant « Oui, monsieur, déjà depuis 10 jours avant l'accident. » Bon, non, c'est pas ça qui m'a foutu un petit coup. C'est de voir parler de la Fédération Léo Lagrange. Alors pour moi, la Fédération Léo Lagrange, ben c'était il y a 30 à 40 ans, j'avais une barbe d'une autre couleur et des cheveux, j'étais objecteur de conscience et je m'étais retrouvé, parce que bon, soit tu faisais l'insoumis, ce qui était pas évident pour ta propre vie, soit tu faisais objecteur, soit tu faisais un service militaire, mais ça il n'en était pas question. Et donc ben, je m'étais retrouvé à la Fédération Léo Lagrange pour une durée de 2 ans, moins 3 mois, pour ceux qui se souviennent des remises de peine possibles en bout de service. Et même à la Fédération Léo Lagrange, donc, on était, ben, comme je m'occupais des autres objecteurs, de leur statut au sein de la Fédé, ben, on était, bon an mal an, 150 objecteurs à la fois engagés dans les clubs de la Fédération d'éducation populaire que c'était. Donc pour moi, c'était ça mes souvenirs de la Fédé. Et puis là, ben, je vois dans l'article du Canard Enchaîné que pour le SNU, le Service National Universel, le machin inventé par l'État pour dire « Venez vous entraîner avec les militaires pour voir comme c'est bien de découvrir avec eux la vie en communauté avec un juteux, un adjudant ou je ne sais quoi au-dessus de vous », ils avaient passé un appel d'offres, l'État, et quelle était la fédération d'œuvres laïques, etc., qui avait répondu à l'appel d'offres et qui d'ailleurs s'en foutait plein de sous dans les poufouilles sans bien faire les choses, la Fédération Léo Lagrange. Donc on était passé de l'objecteur de conscience et des 150 objecteurs de conscience à plein temps à ben maintenant on s'associe au Service National Universel. Voilà, ça c'était mes petits souvenirs perso et puis quelques autres petits souvenirs. Je me souviens de mes chers compatriotes, la France est en guerre. Je me souviens que Paulette déteste les fleurs. Alors, j'y achetais des fleurs. Je me souviens des adieux du Vent du Chemin à Gaston Coutet. Ils avaient fini de publier leur 5e tome. C'était une soirée à Bobineau avec Bernard Melien, Jacques Florency, Marc Robin, Gérard Pierron. Je me souviens que le président de la République avait dit que le monde d'après ne sera pas le monde d'avant. Bon, oui. Mais d'ailleurs, quel monde d'avant ai-je laissé à mes enfants? Je me souviens que quand j'étais haut comme 3 pommes, ben je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « je sais, je sais ». Je me souviens qu'avant de commencer à chanter, dans toutes les émissions de variété, les chanteurs et chanteuses prenaient le temps de régler la hauteur du pied de micro, même d'ailleurs quand ils chantaient en playback. Je me souviens du week-end où mes parents étaient allés rendre visite au mari de ma tante hospitalisée à Auxerre. J'en avais profité pour fouiller dans la discothèque de mon père, parce que j'en avais marre de la lecture des 2 SAS et Brigade Montaigne que Jean-François m'avait prêté pour l'occasion. Et j'avais trouvé un disque, à la pochette d'une sobriété exemplaire, avec la mention « Les chansons du spectacle du TNP, des circonstances extérieures, grève des musiciens empêche actuellement la sortie du nouvel album de Georges Brassens, mais devant la qualité, la spontanéité, le caractère détendu de cet enregistrement provisoire, nous avons pensé qu'il était agréable aux admirateurs de Brassens. » Dès leur retour le lundi suivant, j'écoutais les 2 plages du disque chaque matin, en prenant mon petit déjeuner, avant de filer au lycée par le train de 7h16, surtout d'ailleurs les 4 bacheliers, le fantôme, la fessée. Je me souviens de la photo qui montrait des hippies façon Janis Joplin en train de glisser des fleurs dans le canon des fusils des portes des forces de l'ordre devant le Pentagone. Je me souviens que l'un des autonomistes irlandais, arrêté par la cellule de l'Élysée cherchant des terroristes partout, y compris à Vincennes, l'un des dits autonomistes irlandais s'appelait Stephen King. Je me souviens que mon meilleur copain en CM1 s'appelait Martin. Mais je ne sais même plus d'ailleurs si Martin, c'était son prénom ou son nom de famille. Je me souviens qu'on oublie qu'hier est loin, si loin d'aujourd'hui, et puis un jour, il suffit d'un parfum. Je me souviens que sur la plage de Saint-Malo, Patrice, c'était le garçon de la caravane Sterkman au camping, ramassait des os de seiche qu'il rapportait à sa grand-mère. Sa grand-mère avait un canari, deux perruches, de la moustache et des berlingots dans sa chambre, comme il m'avait raconté. Je me souviens d'une chemise, d'une taie d'oreiller, de deux t-shirts, devenus rose tendre et jolis, parce que je les avais lavés en même temps qu'un drap d'un rouge pétant. Je me souviens que J.F. était allé au cinéma voir La Marquise d'Eau d'Éric Rohmer, ayant confondu avec Histoire d'Eau. Il était revenu déçu et même pas amoureux d'Edith Cléver ou Bruno Ganz. Je me souviens qu'Olivier avait caché des photos de Baudérec et Valérie Caprisky, extraites de deux numéros de lui, entre les pages du Gaffio, le dictionnaire latin, se doutant que personne n'irait effeuiller les pages odorantes et poussiéreuses et fanées du vieux dictionnaire. Jusqu'au jour où sa mère lui annonça « Tu sais, le vieux dictionnaire que personne n'utilisait plus, je l'ai donné à Laurence, elle organise des cours du soir pour aider les tchots au collège. »
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Ils ont leur petit jet horizontal, leur petit siphon, leur deux babales. Peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Ils ont leur petit cèpe dans leur culotte. Leur petit périscope sous la flotte, ils ont le bâton ou la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguette, dans des gros rires à la buvette, les hommes. Ils se racontent leur guéguerre, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère, les hommes. Ils te traiteront de pédé, de gonzesse et de dégonflé, à moins que tu ne sors de hors-cité. Ils aiment les femmes comme des fous, c'est si pervers et c'est si doux. Enfin quoi, c'est pas comme nous, les hommes. Ils aiment les femmes à la folie, passive, muette et jolie, de préférence dans le lit, des hommes. Au baby room, au boudoir, à la tortore, au trottoir, ils aiment les femmes sans espoir, les hommes. Prostituée ou Pénélope, apprivoisée ou antilope, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France, les hommes. Ils ont abattu.
Un petit malheur, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir où on en était à peu près.
Homme, prostituée ou Pénélope, apprivoisée ou antilope, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'il décapite en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes ont abattu les Tibétaines, ont fricassé les Africaines, ont indigné les indigènes. Les hommes ont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux châtelaines et le tablier à ma mère. Les hommes. Excusez-moi, mes ailes me grattent, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate des hommes. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un sourire, de votre mafia, de votre empire des hommes. À chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Pardonnez-moi la fausse manœuvre à un moment quand j'ai voulu attraper le clavier de l'ordinateur. J'ai coupé la chanson. C'était une chanson d'Henri Tachant. La semaine dernière, on a fait la part belle à l'œuvre d'Henri Tachant qui nous a quittés au début des vacances. On le fera encore dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, parce que y a plein de chansons. À la fin, je me dis oh merde, il y a celle-là que j'ai pas passée et tout. Et puis tiens, même Fabien à l'autre bout de l'antenne a réagi en nous envoyant un document par l'intermédiaire d'Evelyne ensuite, sur lequel on voit Henri Tachant recevoir un prix, je sais plus si c'est un prix d'Académie Charles Cros ou quelque chose comme ça, aux côtés de Francis Blanche, petite image sympathique. Mais ça sera pour la programmation musicale d'aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on fera quelques infidélités à Henri, mais sinon, du côté texte, qu'avons-nous, chers amis? Alors, Laurent est excusé, il devait nous amener des invités, il est coincé par un truc, je ne sais quel virus, Sophie aussi, mais autour de la table... Vous ne toussez pas, ça va ?
Ça va. Nous, on n'a pas perdu notre voix. Laurent a perdu sa voix, mais je pense qu'il va la retrouver dans quelques temps. Il pourra assurer dans une quinzaine de jours son émission le jeudi. Voilà. Donc, moi, je suis toujours avec Patrick Denis, comme la truite sous la pierre, encore des textes de jeunesse qu'il a écrit. Michel ?
Moi, je suis venu aussi avec un livre de Marcel Schwab. Donc, je vous en lirai un petit passage.
Même deux.
Voilà.
Et ça ?
Eh bien, en priorité, donc, les poèmes à dire sélectionnés par Daniel Gélin. En alternance avec les poèmes de Papy Jean. Comme les derniers poèmes des Sénines sont longs, peut-être aurais-je le temps de lire Lettre à une femme, ou peut-être pas, on verra.
Comme nous sommes tous les trois, on s'invite mutuellement, on aura sûrement le temps.
Et j'aurai les petits cadeaux d'Evelyne et Jean-Marie.
Patrick Denis. Daniel et l'île Saint-Louis. La lueur du jour s'estompait avec discrétion. C'était au soir du dimanche 10 novembre. Les quais fleuraient l'automne et nous traversions le pont Sully en frissonnant. Elle s'appuyait sur mon bras. Deux ombres transies mais heureux. Lors, nous enfilâmes le quai de Béthune. Une paix miraculeuse, un silence inouï. Le soleil en flânant jouait encore sur les carreaux. Aux fenêtres de vieux hôtels particuliers. Les ultimes faisceaux s'attardaient sur des formes étranges, déformées au crépuscule, par derrière les rideaux mouvants. Et, surtout, les lieux étaient baignés de mélancolie vibrante, tous deux enlacés, cheveux flottants, soir de bonheur. Écrit le 10 novembre 1967.
J'ai ma carte, je suis au parti des petits lapins. Depuis 40 ans, leur drapeau, c'est le mien. Carreau trop sur fond luzerne, ça fait pas fuir les badernes qui nous traquent une carabine à la main. J'ai ma carte, je suis au parti des petits lapins qui finissent à la moutarde au romarin. En civet à la casserole, croyez pas que ça me console de ne pas vieillir dans mon champ de thym. Ma vie, qui l'a choisi? J'ai les mains vides, ils ont le fusil. J'ai ma carte, je suis au parti des petits enfants qui ne veulent pas plus tard devenir grands, qui ne veulent pas jouer au facteur, qui ne veulent pas jouer au docteur, ni jouer au papa et à la maman. J'ai ma carte, je suis au parti des petits enfants qui s'ennuient beaucoup au milieu des parents, mais qui s'envolent sur l'aile bien tiède d'une hirondelle qui pour eux quelquefois fait le printemps. Ma vie, qui l'a choisi? J'ai les mains vides, ils ont fusé. J'ai ma carte, je suis au parti des pauvres vieux entassés dans leur fourrière de banlieue. À l'hospice, à l'hôpital, mourir c'est le moindre mal quand on est loin de chez soi, seul et vieux. J'ai ma carte, je suis au parti de pépé, mémé, qui n'ont plus personne à voir ni à aimer. Même pas un bouquet de violettes, un chat de gouttière, une voilette, que leurs souvenirs déjà ont baumé. Ma vie, qui l'a choisi? J'ai les mains vides, ils ont fusé. J'ai ma carte, je suis au parti des petites fleurs, au parti de tout ce qui souffre et qui meurt. Loin de vos Jeux Olympiques, URSS Amérique, loin de vos cliquetis d'armes vainqueurs. J'ai ma carte et je persiste et je signe. Je suis incurable, je reste dans ma ligne. Et je garde dans l'oreille, juste avant le grand sommeil, un violoncelle qui pleure la mort du cygne. Ma vie, je la choisis, je garde les mains vides, le fusil. Ma vie, je la choisis, je garde les mains vides, le fusil.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Ah, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. La personne qui a interprété les hommes d'Henri Tachon, c'est Magali Lucie, dont je vous parlais la semaine dernière, qui chaque semaine glisse sur Internet ses amusements dimanchesques, où elle reprend une chanson du répertoire, dira-t-on, et du répertoire qu'on aime bien sur cette antenne. Allez, c'est à qui?
Au choix. Oui. Je vais vous lire donc un passage... qui est en fait l'épilogue du chapitre Mime, donc de Marcel Schwab. La longue nuit pendant laquelle Daphnis et Chloé restèrent éveillés, comme des hiboux, les mena jusqu'à chez Perséphone, la lumineuse. L'indulgent dieu des amants les fit mourir d'une bonne heure, semblable à des enfants pieux. Il craignit la jalousie des nymphes et de Pan ou de Zeus. Il fit envoler leurs âmes durant leur sommeil du matin, et elles arrivèrent dans le royaume d'Hadès, et blanches traversèrent sans se souiller l'infernal marécage, entendirent les grenouilles fuir devant le triple aboiement des gueules rouges de Cerbère, puis sur les prairies sombres qui sont obscurément éclairées par un crépuscule d'astres, les deux ombres blanches s'assirent et cueillirent le croco jaune, et l'hyacinthe, et Daphnis tressa pour Chloé une couronne d'asphodèle. Mais ils ne mangèrent pas le lotus bleu qui croît sur les bords du l'été, ni ne burent de l'eau qui fait perdre la mémoire. Chloé ne voulait pas oublier, et la reine Perséphone leur donna des sandales de glace à semelles de feu pour traverser le courant enflammé des fleuves rouges. Cependant, malgré les grandes fleurs jaunes, bleues et pâles des prairies souterraines, Chloé s'ennuyait. Elle ne voyait sur l'herbe ténébreuse que des papillons de nuit très lourds, dont les ailes noires étaient coupées de croissants ensanglantés.
Daphnis ne caressait que des bêtes nocturnes dont les yeux avaient des lueurs de lune, dont le poil était doux comme le pelage des souris chauves. Chloé avait peur des chouettes qui huaient dans le bois sacré. Daphnis regrettait la blancheur des choses sous le soleil. Ils se souvenaient tous deux, n'ayant pas mouillé leur menton aux rives de l'été, ils pleuraient la vie et invoquaient la grave bienfaisance de Perséphone. Et comme les songes sortent tous de l'Érèbe, la porte d'ivoire, le sommeil des ombres est sans rêve. D'ordinaire, comme elles sont enveloppées d'oubli, elles ne pourraient songer dans leurs têtes vaines et légères qu'aux plaines indécises qui entourent le Tatar. Mais Daphnis et Chloé souffraient infiniment de ne point réaliser en dormant leurs souvenirs de la vie passée. La bonne déesse eut pitié d'eux et elle permit aux conducteurs d'âmes de les consoler. Par une nuit bleue, elle feignit de les confondre avec les songes, et parmi les êtres multicolores, chevauchants et volants, criant, riant et pleurant, qui passent sous nos paupières quand ils se sont échappés de la porte pâle de l'Érèbe, Daphnis et Chloé, l'un contre l'autre, étroitement serrés, revinrent voir l'île de Lesbos. L'ombre était azurée, les arbres clairs, les taillis lumineux. La lune semblait un miroir d'or. Chloé s'y fut mirée avec un collier d'étoiles. Mytilène se dressait au loin comme une cité de nacre. Les canaux blancs traversaient la prairie. Quelques statues de marbre renversées buvaient la rosée. On voyait étinceler dans l'herbe leurs chevelures en torsades, teintes de jaune. L'air tremblait d'une lumière vague. « Hélas, dit Chloé, où est le jour? Le soleil est-il mort? Où faut-il aller, mon Daphnis? Je ne sais plus la route. » « Ah, il n'y a plus nos bêtes, Daphnis, elles se sont perdues depuis que nous sommes partis. » Et Daphnis répondit, « Ô Chloé, nous revenons errer dans les songes qui visitaient nos prunelles dans le sommeil des prés ou dans le repos des étables. Nos têtes sont vides comme les pavots mûrs, nos mains sont chargées de fleurs de la nuit éternelle. » Ton cher front est sain d'asphodèle, et tu portes contre ton sein le croco qui pousse dans l'île des bienheureux. Il vaut peut-être mieux ne pas se souvenir. Mais voici que je me souviens, mon Daphnis, dit Chloé. La route qui mène à la grotte des nymphes longe cette prairie. Je reconnais la pierre plate où nous nous asseyons. Vois-tu le bois d'où sortit le loup qui nous fit si grand peur? Ici, tu me tressas pour la première fois une cage à cigales. Là, dans ce buisson, tu pris pour moi une des stridentes cigales et tu la posas sur mes cheveux, où elle chantait sans discontinuer. Elle était plus belle que les cigales d'or des Athéniennes d'autrefois, car elle chantait. Je voudrais en avoir une encore. » Et Daphnis répondit, « La cigale bruite à l'heure de midi quand le vent fort des trous sanglants au cœur du chaume, quand la ciguë à taille verte éploie son ombelle blanche pour se mettre au frais. Maintenant, elle dorment et je ne saurais en trouver. Mais vois, Chloé, l'antre du dieu Pan, et j'aperçois le bassin où la vue de ton corps nu m'a troublé, et près de là, le taillis où ton premier baiser me rendit délirant, où je venais te guetter tandis que j'engluais les pièges à oiseaux dans l'hiver, et que toi, au milieu de la haute salle, tu rangeais les fruits dans les grandes amphores. Ô Chloé, la maison n'est plus là, et le bois de sorbier est solitaire, car la huppe et le roitelet n'y viennent plus. Et Perséphone a éteint nos âmes qui brûlaient. Voici, dit Chloé, je viens de prendre dans une fleur pourpre une abeille qui dormait. Je l'ai regardée. Elle est rousse et laide, et je n'aime pas les cercles noirs de son ventre. Autrefois, je croyais l'abeille un baiser avec des ailes. Je viens de tremper mon doigt dans un rayon de miel, et tout le parfum du miel nouveau s'est envolé. J'ai cessé d'aimer le miel. Chloé, donne-moi un baiser, dit Daphnis. Voici, mon Daphnis. Et les deux ombres blanches furent troublées sans rien oser dire, car leur baiser n'avait plus d'aiguillon ni d'odeur sauvage. Et comme le désir des brebis, des chèvres, des oiseaux et des cigales diminuait dans leur cœur, le plaisir de toucher leur corps ne les agita plus d'un frémissement. Ô Chloé, ici nous avions des fromages gras sur des claies vertes, et je n'aime presque plus les fromages, mon Daphnis. Au Chloé, là, nous avons cueilli les premières violettes de notre dernière année. Et je n'aime presque plus les violettes, mon Daphnis. Ô Chloé, garde ce petit bois où tu m'as donné ton premier baiser. Et Chloé détourna la tête et ne répondit rien. Alors, silencieux, ils maudirent dans leur cœur la nuit qui semblait avoir teint les choses d'amertume, et ils prièrent sans parole le conducteur d'âme de venir les reprendre avec les songes légers pour les ramener par la porte pâle de l'Éreb dans les prairies d'Asphodel où ils avaient la tendre douleur de se souvenir. Mais la bonne déesse n'exauça pas leur prière. Ils restèrent penchés, chacun à part, sur les statues tombées. Lorsque la nuit bleue devint faiblement dorée à l'Orient, ils entendirent un bruit de rames le long des côtes. Ils levèrent la tête, sachant qu'ils allaient voir des pirates matelots qui ravissent tout sur les rivages de Lesbos et qui crient d'une voix retentissante chaque fois qu'ils plongent leurs rames « Roupaï ! » Et cependant, bien que la brume fût légère, ils n'aperçurent pas de vaisseau. Mais il y eut un grand écho qui fit frissonner l'écume sur la grève. Le grand Pan est mort, le grand Pan est mort, Pan est mort, le grand Pan est mort. Alors la cité nacrée de Mytilène s'écroula, et les statues se renversèrent toutes, et l'île devint noire, et les petites âmes des sources s'échappèrent, et les dieux minuscules s'envolèrent du cœur des arbres, de la moelle des plantes, du centre animé des fleurs, et le silence s'étendit sur les morceaux de marbre blanc. Les ombres de Daphnis et de Chloé s'évanouirent, subitement, très vieilles, au jour nouveau, et la bonne déesse, dont la puissance souterraine était abolie, les prit, tandis qu'elle s'enfuyait au-dessus des prairies, avec la région inconnue, vers la région inconnue, où les dieux sont retirés. Elle féconda Lesbos de son haleine, et rendit à la terre Daphnis et Chloé, car l'île, parmi les canaux blancs qui la sillonnent, et couverte de leur âme multipliée, tant les lauriers et les oserais verdoyantes ont jailli de son cœur enseveli.
Merci.
Du temps que régnait le grand Pan, les dieux protégeaient les ivrognes, un tas de génies titubants, au nez rouge à la rouge trogne, dès qu'un homme vidait les cruchons, qu'un sac à vin faisait carousse, il venait en bande à ses trousses compter les bouchons. La plus humble piquette était alors bénie, distillée par Noé, Silène et compagnie. Le vin donnait un lustre au pire des minus, et le moindre pochard avait tout de Bacchus. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui ça et là, les gens boivent encore, et le feu du nectar fait toujours luire les trognes, mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes. Bacchus est alcoolique et le grand Pan est mort. Quand deux imbéciles heureux s'amusaient à des bagatelles, un tas de génies amoureux venaient leur tenir la chandelle. Du fin fond des Champs-Élysées, dès qu'ils entendaient un « je t'aime », ils accouraient à l'instant même compter les baisers. La plus humble amourette était alors bénie, sacrée par Aphrodite, Eros et compagnie. L'amour donnait un lustre au pire des minus, et la moindre amoureuse avait tout de Vénus. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui ça et là, les cœurs battent encore, et la règle du jeu de l'amour est la même, mais les dieux ne répondent plus de ceux qui s'aiment. Vénus est faite femme, et le grand Pan est mort. Et quand fatal sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies l'œil en pleurs vous offraient les honneurs posthumes pour aller au céleste empire. Dans leur barque ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron, Pluton et compagnie. Au pire des minus, l'âme était accordée et le moindre mortel avait l'éternité. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé, la bande au professeur Nimbus est arrivée, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle, et le grand Pan est mort, et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes, ne doit plus se sentir tellement bien lui-même. Un beau jour, on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe, merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types, j'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste.
Oui, initialement, entendant parler de Daphnis et Chloé, je m'étais dit, allez, je vais caler du Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, Maurice Ravel qui n'est pas qu'un lycée à la porte de Vincennes. Et puis, malgré tout, en entendant brailler plusieurs fois « Le grand Pan est mort », je n'ai pu m'empêcher de sauter sur l'occasion pour aller chercher Tonton Georges avec « Le grand Pan ». Effectivement, Radio Libertaire 89,4 MHz, il est 16h06 et c'est à toi.
Alors. Et Daniel Gélin a choisi pour vous aujourd'hui le poème de Dominique Tron, « Plein les yeux ». Qui commence par une citation de Prévert. « J'ai des oiseaux plein les yeux, sûrement je vais rêver d'un jardin. Vigne envahissant les gradins de mes cirques, je gobe votre sang comme un or électrique. Je vois un maladroit petit lapin neigeux blotti dans les cheveux d'une fillette nue. Et le ciel est, comme tous les matins, tintant d'un lointain air de thym. Je m'attarde sur tes yeux, et j'y vois des saules pleurer. Laisse-moi te toucher. Des armées vont dans la rue en chantant. C'est triste ou gai, selon le temps. Je veux te toucher, mais mes doigts deviennent des branches, de plus en plus feuillues, de feuilles bleues, vertes et blanches. Je suis couchée sur les voiles d'un navire. J'explore la blanche toile à tâtons. Je m'allonge et m'endors. Du lustre perroquet délicieusement tu me hantes, et je dévore la tapisserie vivante. Mon ombre est celle d'un pharaon. Je vois même le serpent s'échapper de mon front, mais il est retenu par le diamant saint. Enfin, je vois. C'était un soir. La ville est toute noire et blanche, comme dans les vieux films. Un bec de gaz crache des chapeaux melons. Un des chapeaux s'est posé devant moi, assis comme un poussin. Un lézard au regard très triste pose ses yeux sur le bord et sort une langue d'acier qui se met à fendre l'air, si bien qu'il le déchire, ce rideau. Et la lumière éclate, tourbillon de jeunesse. Oh ! Des chevaux à queue rouge, aux oreilles bleues. Ça bouge, dit l'enfant, triomphant. Je marche sur des éléphants. Et les crapauds s'enfuient, couverts de boutons d'or. Enfin, lumière, plus que toi. Quelle salade! Lumière! Oh! Je veux ces fruits, ces groseilles, ce soleil qui s'éparpille. Voilà mes dents! Je veux! Je rêve que je suis un géant, un papillon géant. Je veux! Mais je ne suis qu'un pauvre réveil matin. poème extrait du recueil Stéréophonie, édition Segers.
depuis toujours a eu le mauvais rôle. Sous son grand manteau noir, il ricane le drôle. C'est le vilain Apache, le sanguinaire Sioux. C'est le scalpeur d'enfance, c'est le grand méchant loup. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres Américains. Combien de visages pâles et combien d'indiens. Petits cochons, tout au fond de leur planque, entassaient leurs millions, y avait pas encore de banque. Lorsque surgit vengeur, le drapeau noir en main, notre Arsène Lupus, notre Arsène Lupin. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres marchands de grains, combien d'oncles Picsou et combien de mandrins. Un agnelet dodu buvait dans l'onde pure, cachant dessous sa laine une tendre nourriture. Le loup en salivant lui dit, mon pauvre agneau, même Jean de la Fontaine raffolait du gigot. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres suceurs de sang, combien de cannibales, combien de non-violents. Petit chaperon rouge, déjà fief et salope, avec son petit pot de beurre et sa petite culotte, a dit à l'animal, tu viens chez moi mon loup, à une pareille invite qui refuse qui de vous. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres tristes tapins, combien reste-t-il d'anges et combien de putains. Sur son chemin de jeûne et de misère, explique à un beau chien, bien luisant, bien prospère, à la vue de la chaîne, accroché à son cou, à toi la vie de chien, à moi la mort du loup. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres canichonnats, combien y a-t-il d'esclaves et combien de mutins. N'aimez plus le loup à vos sales histoires, vos contes, vos dictons, c'est de la merde à boire. Et si la faim elle fait sortir le loup du bois, vos guerres vous font sortir de partout à la fois. Pauvre mec, pauvre blanc bec, pauvre triste filou, combien reste-t-il d'hommes, dites-moi, et de loup. Combien reste-t-il d'hommes, dites-moi, et de loup. Combien reste-t-il d'hommes, dites-moi, et de loup.
Ah oui, en repartant la semaine dernière, je me suis dit, celle-là, pourquoi je ne l'ai pas passée dans notre hommage à Henri Tachant? Ben, on la passe cette semaine parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et alors, pour moi, il y a des souvenirs sur cette chanson parce que elle passait dans le cadre du hit parade, figurez-vous, parce que le hit parade, à l'époque, il y en avait deux. Il y avait un hit parade des 45 tours. Alors, évidemment, c'était basé sur les meilleures ventes. C'était à l'époque sur Europe 1, et Europe 1, à l'époque, c'était Lucien Maurice, les disques AZ, quand même, une certaine référence. Mais le hit parade des 45 tours basée sur les meilleures ventes, donc vous aviez droit effectivement à Sheila, Chardenne, Dave et compagnie. Et puis il y avait un hit parade des 33 tours qui lui avait lieu une fois par semaine. Et là, ben, on vous passait les meilleures ventes des 33 tours. Et les meilleures ventes des 33 tours, ben, comme c'était un objet plus cher, c'était des gens qui étaient peut-être moins influencés par la mode où on leur passait un peu de tout, et qui disaient, ben non, moi si je m'achète un disque, et s'il faut qu'il y ait quand même 12 chansons qui tiennent la route, ben faut qu'il y ait du Brassens, ou du Maxime Le Forestier, ou du Henri Tachant. Et c'est comme ça qu'Henri Tachant se retrouvait dans le classement du hit parade, on disait pas encore top 50 à l'époque, et que le samedi, ben sur Europe, on pouvait entendre, classé maintenant 5e, Henri Tachant, et bam, on vous balançait, même Jean de la Fontaine raffolé du gigot, le petit chaperon rouge, des vaches déjà fief et salope. Tu te rends compte quand t'entends ça à 15 ans, avec son pot de beurre et sa petite culotte, a dit à l'animal, tu viens chez moi mon loup, à une pareille invite qui refuse qui de vous. Putain, tu te prenais ça dans la gueule sur une radio, comme ça, une radio dite périphérique, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, et tu te disais, ah ben ça vaut le détour. Oh, remarquez, c'était quand même l'époque aussi où, vous pouvez aller chercher le documentaire sur YouTube, où Henri Tachant allait traîner du côté des éditions du Square et rencontrer, juste parce que ça l'amusait, les bouclages d'Arakiri, ou Charlie Hebdo même à l'époque, il rencontrait Cavana, il rencontrait Cabu, il rencontrait Willem, etc. Et Vlatipak un jour, ils ont dit, mais si on te faisait, alors Cabu lui a fait une couverture pour un album que Tachan a réutilisé par la suite, et ils ont dit, et si on faisait un album avec d'un côté le texte de tes chansons et de l'autre côté des illustrations faites par tous les gens des éditions du Square. Et ça avait donné un machin dont Tachan était fier comme tout. Je crois qu'il y a eu 3 volumes successifs de Tachan aux éditions du Square. Et j'ai même chez moi, il doit y en avoir eu plusieurs, les romans photos du professeur Choron, Henri Tachan avait dit « Les gars, je peux participer. » Il était venu prêter son physique à les délires scatologiques provocateurs dans tous les sens. Là, je crois me souvenir d'un truc où il était en prisonnier faisant la grève de la faim. Il y avait les autres en train de se baffrer à côté, de se taper tout ce qu'ils pouvaient. Enfin bref, donc Tachan, c'était ça. Il était tout fier. Et vous pouvez vous taper Henri Tachan Cabu et vous avez un document de 15 minutes avec des témoignages de Cavana, Marcel Amont et quelques autres comme ça, et Cabu bien entendu. Radio Libertaire, et si maintenant je vous offrais l'un des petits cadeaux d'Evelyne et ou Jean-Marie, on découvre.
De l'amour que la magie fait naître, nos rêves divagants de l'océan se dresse dans un ciel rougeoyant d'émail et de tendresse qui illumine, assouvie la lune à sa fenêtre. Surgissent les forains, le festin les appelle, arborer les couleurs n'est pas un sacrilège. Notables et nomades vont se faire la belle. S'éprendre du malheur fait tourner le manège. De l'ébaillon sérail au Paris chaviré, j'ai tout appris par cœur et jamais rien ne donne. Je souffre de bonheur méga de la couronne du flambeau des désirs au rideau déchiré. Tu n'as rien fait pour vivre, encore moins pour aimer. Les bleus de ton enfance pris à l'emporte-pièce, pourvu que te délivre de ce mal imprimé zeste d'innocence, reflet de ta jeunesse. Merci, merci mille fois de toujours mettre à jour du fond des catacombes la porte de l'amour.
Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houvert et de bruyère en fleurs. Un bouquet de houvert et de bruyère en fleurs. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
Ben ouais. Victor Hugo, vous avez reconnu, Demain dès l'aube. Pierre Perret, vous avez reconnu la voix. Alors qu'est-ce que ça fait là? Ben tout simplement parce que Pierre Perret, sur un album sorti en 95, je crois, interprète ce Demain dès l'aube, musique d'Henri Tachan. Au départ, c'est Tachan qui avait adapté sur un ancien album le texte de Victor Hugo. Victor Hugo qui évoquait la disparition tragique de sa fille. Et mais Pierre Perret adorait Henri Tachan, au point d'ailleurs que là, il s'est fendu d'un mot sur je ne sais quel réseau social pour dire « t'aurais pas dû nous faire ça, t'aurais pas dû mourir, quoi, en gros ». Et puis, pour rappeler aussi d'ailleurs que deux des premiers albums d'Henri Tachan avaient été édités chez les disques Adèle, c'est-à-dire dans la maison de disques de Pierre Perret. Et puis, ben, en 95 aussi, Pierre Perret avait lui-même perdu sa fille de manière tragique, ce qui explique que cette chanson est assez lourde à écouter, effectivement. Et c'est, je crois, l'un des rares titres que Pierre Perret ait repris à quelqu'un d'autre sur ses albums. Clin d'œil donc quand même à Henri Tachan. Il est 16h21 sur Radio Libertaire et on démarre un deuxième tour.
Un deuxième tour. Voilà. Vision. Le texte que je vais lire a été écrit en deux temps. Il est des jours d'automne, aux résonances drôles, quand à l'ombre inutile des marronniers flétris, l'on se couche un moment. On s'étonne, on sourit, en remontant le film imbu de notre rôle, spectacle incohérent, macabre fantaisie, symphonie électrique, larmoyante et meurtrie, absurde symphonie. Alors, l'esprit s'ébroue au sortir du chaos, s'extirpe de sa gangue de toute chair et d'os, déployant sa membrure. Et d'un soudain effort se rue vers les espaces inconnus jusqu'alors. Le regard ébloui, aux reflets fantastiques, des nappes colorées, mouvantes aquatiques, aux fontaines ardentes, aux précieuses folies qui étreint le poète, son âme épanouie, et un tourbillon de feu illumine ses tempes et ranime la mèche de la sublime lampe. Le fanal de l'histoire croît démesurément et l'incendie s'apaise à la lueur et la lueur s'étend. Elle inonde, elle submerge les tréfonds de l'esprit et l'homme n'est plus homme mais soleil rougeoyant. Et puis, le nirvana. Quand renaît la conscience et l'heure qui s'endort, soulagée et repue, d'un profond sommeil. C'était écrit à Paris le 22 et 23 octobre 67 et terminé le 27 février 68. Je crois que c'est la partie nirvana.
Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Un simple page ou un pucier où deux animaux se dépensent. Et quand s'installe la tendresse entre nos corps qui s'apprivoisent, que platoniquement je caresse de mes yeux ta bouche framboise. Alors l'amour et l'amitié n'est-ce pas la même romance? Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, ils ont barbelé des frontières. Nos sentiments étiquetés, et si on aime trop sa mère, ou bien son pote, ou bien son chien, il paraît qu'on est en nos troubles, qu'on est cliniquement freudien, ou inverti, ou agent double. Alors que l'amour et l'amitié ont la même gueule d'innocence. Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, la pudeur a forgé sa chaîne. À la barbe du monde entier et de ses gros rires gras de haine. Bon an, mal an, les deux compagnes se dédoublent ou bien s'entremêlent. Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Entre l'amour et l'amitié se cache un petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami.
Et voilà, celle-là, elle date de 74, avec des orchestrations d'ailleurs de Jean Musy. Radio Libertaire, dans une grosse demi-heure, ce sera Bulle Noire, magazine du Polar, avec, on verra, si Robert de Terre a des invités aujourd'hui. Il me semble qu'il a prévu quelque chose. Ne confondez pas d'ailleurs une grosse demi-heure et une demi-grosseur. Ça fait pas exactement la même chose. La demi-grosseur, d'ailleurs, que vous avez soit sur les couilles, soit sur les seins, serez-vous, j'irai consulter. Allez, c'est à qui maintenant?
Alors, je découvre un texte que je n'avais pas encore lu, La machine à parler, de Marcel Schwab, qui, je vous le rappelle, est né en 1867. Donc, c'est il y a longtemps quand même. Alors, il écrit ça pour. Il adresse ça à Jules Renard. La machine à parler. L'homme qui entra, tenant un journal à la main, avait des traits mobiles et le regard fixe. Je me souviens qu'il était pâle et ridé. Et je ne le vis pas une seule fois sourire, et que sa manière de poser un doigt sur sa bouche était pleine de mystère. Mais ce qui arrêtait d'abord l'attention, c'était le son étouffé et précipité de sa voix. Lorsque sa parole était lente et basse, on entendait les tons graves de cette voix, avec dessous d'un silence de vibration, comme s'il y avait des harmoniques lointains, frissonnant à l'unisson. Mais presque toujours, les mots se pressaient sur ses lèvres et jaillissaient sourds, entrecoupés, discordants, semblables à des bruits de fêlures. Il paraissait y avoir en lui sans cesse des cordes qui cassaient. Et de cette voix, toutes les intonations avaient disparu, et on n'y sentait pas de nuances comme si elles eussent été prodigieusement vieilles et usées. Cependant, le visiteur que jamais je n'avais vu s'avança et dit « Vous avez écrit ces lignes, n'est-il pas vrai ?» Et il lut « La voix est le signe aérien de la pensée, par là de l'âme, qui instruit, prêche, exhorte, prie, loue, aime, par qui se manifeste l'être dans la vie, presque palpable pour les aveugles, impossible à décrire, parce qu'elle est trop ondoyante et diverse, trop vivante, justement, et incarnée en trop de formes sonores. La voix de Théophile Gautier renonçait à dire dans des mots parce qu'elle est, elle n'est ni douce, ni sèche, ni chaude, ni froide, ni incolore, ni colorée, mais quelque chose de tout cela dans un autre domaine. Cette voix qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, la plus immatérielle des choses terrestres, celle qui ressemble le plus à un esprit, la science la pique au passage avec un stylet et l'enfuit dans des petits trous sur un cylindre qui tourne. Lorsqu'il eut achevé sa parole tumultueuse, n'apportant à mes oreilles qu'un son emmitouflé, cet homme dansa sur une jambe, puis sur l'autre, et sans ouvrir les lèvres, eut un ricanement sec qui craqua. « La science, dit-il, la voix. Plus loin encore, vous avez écrit, un grand poète a enseigné que la parole ne pouvait se perdre, étant du mouvement, qu'elle était puissante et créatrice, et que peut-être, aux limites du monde, ses vibrations faisaient naître d'autres univers, des étoiles aqueuses, des volcaniques, des nouveaux soleils en combustion. Et nous savons tous deux, n'est-ce pas, que Platon avait prédit bien avant Poe la puissance de la parole. La voix n'est pas qu'un frappement sur l'air, car les doigts, en s'agitant, le doigt en s'agitant peut frapper l'air et ne pourra jamais faire de la voix. Et nous savons aussi qu'un jour du mois de décembre 1890, le jour anniversaire de la mort de Robert Browning, on entendit sortir à Edison House du cercueil du phonographe la voix vivante du poète et que les ondes sonores de l'air peuvent ressusciter à tout jamais. Mais vous êtes des savants et des poètes, vous savez imaginer, conserver, ressusciter même la création, vous êtes inconnus. Je regardais l'homme avec pitié. Une ride profonde traversait son front, de la pointe des cheveux à la racine du nez. La folie semblait hérisser ses poils et illuminer les globes de ses yeux. L'aspect du visage était triomphant, comme chez ceux qui se croient empereurs, papes ou dieux, et méprisent les ignorants de leur grandeur. Oui, continuait cet homme, et sa voix s'étouffait à mesure qu'elle voulait devenir plus forte. Vous avez écrit tout ce que savent les autres, et la plupart des choses qu'ils peuvent rêver. Mais je suis plus grand. Je peux, si Poe le veut, créer des mondes en rotation et des sphères enflammées et hurlantes avec le son d'une matière qui ne possède pas d'âme. Et j'ai surpassé Lucifer en ceci, que je puis forcer les choses inorganisées à des blasphèmes, jour et nuit, à ma volonté, des peaux qui furent vivantes et des métaux qui ne le sont peut-être pas encore, profèrent de grandes paroles inanimées. Et s'il est vrai que la voix crée des univers dans l'espace, ceux que je lui fais créer sont des mondes morts avant d'avoir vécu. Dans ma maison gît un behemoth qui beugle à l'indication de ma main. J'ai inventé une machine à parler. Je suivis l'homme qui se dirigeait vers la porte. Nous passâmes par des voies fréquentées, des rues turbulentes, puis nous parvînmes au faubourg de la ville, tandis que les becs de gaz s'allumaient, un à un derrière nous. Devant la poterne basse d'un mur noirci, l'homme s'arrêta et tira un verrou. Nous pénétrâmes dans une cour obscure et silencieuse. Et là, mon cœur fut plein d'angoisse, car j'entendais des gémissements, des cris grinçants et des paroles syllabisées qui semblaient mugies par un gosier béant. Et ces paroles n'avaient aucune nuance, ainsi que la voix de mon guide, si bien que dans cet agrandissement démesuré des sonorités vocales, je ne reconnaissais rien d'humain. L'homme me fit entrer dans une salle que je ne pus regarder, tant elle me parut terrible par le monstre qui s'y dressait, car il y avait à son centre, élevé jusqu'au plafond, une gorge béante, distendue et grivelée, avec des replis de peau noire qui pendaient et se gonflaient, un souffle de tempête souterraine et deux lèvres énormes qui tremblaient au-dessus. Et parmi des grincements de roues et des cris de fils en métal, on voyait frémir ces morceaux de cuir et les lèvres gigantesques bâillaient avec hésitation, puis, au fond rouge du gouffre qui s'ouvrait, un immense lobe charnu s'agitait, se relevait, se dandinait, se tendait en haut, en bas, à droite, à gauche. Une rafale de vent bouffant éclatait dans la machine et des paroles articulées jaillissaient, poussées par une voix extra-humaine. Les explosions des consonnes étaient terrifiantes. Le P et le B, semblables au V, s'échappaient directement au ras des bords labiaux, enflés et noirs. Ils paraissaient naître sous nos yeux. Le D et le T s'enlaçaient sous la masse hargneuse supérieure du cuir qui se rebroussait. Et le R, longuement préparé, avait un sinistre roulement. Les voyelles brusquement modifiées giclaient de la gueule béante avec des jets de trompe. Le bégaiement du S et du CH dépassait en horreur des mutilations prodigieuses. Voici, dit l'homme, en posant sa main sur l'épaule d'une petite femme maigre, contrefaite et nerveuse, l'âme qui fait mouvoir le clavier de ma machine. Elle exécute sur mon piano des morceaux de paroles humaines. Je l'ai dressée à l'admiration de ma volonté. Ces notes sont des bégaiements, des gammes et exercices, le babibobu de l'école. Ces études, les fables de ma composition, ces fugues, mes pièces lyriques et mes poésies, ces symphonies, ma philosophie blasphématoire. Vous voyez les touches qui portent dans leur alphabet syllabique, sur leur triple rangée, toutes les misérables signes de la pensée humaine. Je produis concurremment et sans que la damnation intervienne, la thèse de l'antithèse, la thèse et l'antithèse des vérités de l'homme et de son Dieu. Il plaça la petite femme au clavier derrière la machine. « Écoutez, dit-il de sa voix étouffée. » Et la soufflerie se mit en mouvement sous les pédales, les plis pendants de la gorge se gonflèrent, les lèvres monstrueuses tressaillirent et bâillirent. La langue travailla, les mugissements de la parole articulée fit explosion. Et le mugissement de la parole articulée fit explosion. Au commencement fut le verbe, hurla la machine. Ceci est un mensonge, fit l'homme, c'est le mensonge des livres qu'on dit sacrés. J'ai étudié des années et des années, j'ai ouvert des gorges dans les salles de dissection, j'ai entendu les voix, les cris, les pleurs, les sanglots et les prêches. Je les ai mathématiquement mesurés, je les ai retirés de moi-même et des autres, j'ai brisé ma propre voix dans mes efforts. Et tant j'ai habité avec ma machine, je parle sans nuance comme elle, car la nuance appartient à l'âme et je l'ai supprimée. Voici la vérité et la nouvelle parole. Et il cria au plus haut de sa voix, mais la phrase retentit comme un murmure rauque. La machine va dire « J'ai créé le verbe ». Et la soufflerie se mit en mouvement sous les pédales, les plis pendant à la gorge se gonflèrent, les lèvres monstrueuses tressaillirent et bâillirent, la langue travailla et la parole fit explosion dans un monstrueux bégaiement. Verbe, verbe, verbe. Il y eut un déchirement extraordinaire dans les fils, un craquement de rouages, un affaiblissement de la gorge, un flétrissement universel des cuirs, une fusée d'air qui emporta les touches syllabiques en débris, et je ne pus savoir si la machine s'était refusée au blasphème ou si l'exécutante des paroles avait introduit dans le mécanisme un principe de destruction, car la petite femme contrefaite avait disparu, et l'homme dont les rides sillonnaient la figure totalement tendu, agitait les doigts avec fureur devant sa bouche muette, ayant définitivement perdu la voix.
Dans les orchestres militaires, y a pas de cordes. Pas de corde dans les orchestres militaires, notre mandoline est morte. Y'a que les cuivres pour faire des tim boum boum, des tagadas, soin de soin et des boum. Y'a que des cuivres pour faire des ponts d'arcol, des cuivres pour nous passer à la casserole. Dans les orchestres militaires, y'a pas de corde, y'a pas de corde. Dans les orchestres militaires, notre mandoline est morte. Y'a que des vents qui se lèvent à l'aurore pour jouer la marche cadencée de la mort. Y'a que des vents pour claquer les drapeaux,
faire bomber le torse aux généraux. Y'a que des filles frôlins de mascarade, des flûtes de pan, des pipeaux d'estocade. Y'a que des filles pour faire du berger, en cas de guerre, un mouton enrageux. Dans les orchestres militaires, y'a pas de corde, y'a pas de corde. Dans les orchestres militaires, notre mandoline est morte. Y'a des tambours en peau de pauvre soldat, des faux tam-tams, des tambourins au pas. Y'a que des tambours de garde, même pas champêtres, qui font vibrer les cons à leurs fenêtres. Et dans l'orchestre de mon cœur, y'a une corde, y'a une corde. Et dans l'orchestre de mon cœur, y'a une petite corde qui pleure.
J'ai trouvé que ça s'accordait vachement bien avec le texte de Marcel Schwob offert par Michel. Et dans quelques instants, je vais céder la parole à Elsa pour un choix de texte. Mais juste avant, le cadeau d'Evelyne.
Hier absent, et là déjà, cordée sauvage. Hier te cherche comme un bec d'aigle. Hier est une sortie d'oiseau sur le créneau de pierre, moisi et toujours tendre. Hier se balance inquiétude d'arbre volé dans le désert. Hier est une voile sourde au bout du mât crémeux. Il faut que j'y batte des ailes de chair d'une solitude connue. Hier, en surplombant l'orage, faisant germer enfin ton cœur d'ange, lui offre l'écho d'une colonne ravie sous mes doigts. Adieu, Dieu aveugle. C'est qu'une chair honteuse a anéanti quelques cercueils où dort le jour multiplié de tes offres. Oui, hier, au-dessus des bouquets, ne te soulève qu'étonné, ô sans bruit, toi qui touches la mort. Hier béni, tu as le béret neuf d'un aventurier dans les cieux, la pierre qui joue avec ton soulier. Hier en fuite, hier demain, hier déjà te cherche, toi qui te crois, goutte d'encre sauvage.
Et maintenant, maintenant c'est elle, César. 16 ans qu'elle avait à peu près, je crois, quand elle a commencé à collaborer à ce magazine, en venant déjà nous lire des textes. C'est elle, César, c'est elle, ça.
Papy Jean a écrit un poème à Arthur Rimbaud. La révolte t'emmena à l'immensité étale du blanc. Et tu te révoltas contre la révolte même pour demeurer intact de ton corps et de ton esprit. Vite, il y a beaucoup d'autres vies. L'enfer n'est encore que le feu délicat de la chaleur cardiaque. La danse t'a appris le vertige du poing et les voyages dont on ne revient jamais, qu'agrandis par les faims et les peurs vaincues. Aigle des cimes, ton œil visionnaire plongea au plus profond de la plaine fangeuse, d'où l'unicité causale jaillit, tel le glaive du juste, ensemenceur de carnage. Le cynisme du génie s'éraille aux échos muets, et tes mains crispées, emprisonnant ton idée de Dieu, se trouvèrent ne contenir que l'abandon nécessaire et le renoncement démesuré. Arthur, mon aimé, je connais la triphase de l'aventure à soi seul. J'ai marqué déjà le pas de danse de la révolte. Le vol plané du lyrisme m'élève déjà, et déjà s'incruste à mon front l'œil phare du triangle facial illuminé. J'ai connu ma femme, couronnée de l'aura androgynale. Je lui ai fait un enfant mâle, dans le losange pour évoluer dans le volume. Détachée et libre, plus détachée que toi, Rimbaud, qui n'avait ni femme ni enfant, tu avais le choix. Nous ne l'avons plus. Il faut vaincre la peur, il faut vaincre la mort déjà vaincue. Écrit à Paris en mai 1953.
Ben oui, je vous avais calé tout à l'heure quand même une danse de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Ben, je vous la passe comme petite virgule musicale et je te redonne le micro, Elsa.
Bon. Un petit dernier de Patrick Denis. Poésie avec un Z. Il y avait une cour en rectangle bordée de blanc avec... Il y avait un mât et tout en haut un torchon rapiécé, tricolore et délavé, qui s'essorait au vent. Il y avait de gros camions verts partout dans la cour, tapis dans l'ombre, pareils à de grosses bêtes sournoises prêtes à mordre. Il y avait aussi des fleurs blanches et bleues qui dessinaient sur les parterres de belles figures géométriques. Il y avait deux grandes allées jonchées de gravier blanc. Ça faisait, vu d'en haut, une espèce de V. Il y avait du linge kaki accroché aux fenêtres, comme autant de lambeaux kaki. Il y avait autour de ça de senteurs bizarres et des jeunes gens vêtus de lambeaux secs, qui marchaient tous pareils, au son d'une musique de cuivre. Ça faisait, vu de haut, des figures géométriques mobiles. C'était très chouette. Le ballet de ces géométries mobiles très chouettes a été mis au point par des théoriciens très bien habillés, très chouettes eux aussi. Il y avait M. le doyen assis sur une estrade. C'était le doyen car sur son épaule il y avait 5 petits boutons de ferraille dorée, très bien astiqués, même que le soleil aimait jouer bien avec. C'était un homme très savant. D'ailleurs, ça se lisait sur son visage. Très sérieux, il portait de belles lunettes à monture d'écaille et derrière des yeux à l'éclat vif, signe indéniable d'un génie profond. Nous le respections beaucoup, notre doyen. Il était, il est bon de le dire, fort impressionnant. Si bien que devant lui, nous restions figés, sans faire un geste, sans dire un mot, paralysés d'émotion. Ce fut pour nous tous une rencontre inoubliable. C'était de longues et délicates études, ça durait 16 mois. Cependant, les meilleurs d'entre nous poursuivaient au-delà cette difficile formation et, suivant leur mérite, ils devenaient, après de longues années, théoriciens, spécialistes et experts en géométrie mobile. Et c'était un travail fantastique, car il y a beaucoup de difficultés a combiné la géométrie mobile avec les figures de géométrie stable des parterres de fleurs. En recherchant constamment l'esthétique parfaite, ça demandait de longues et fastidieuses leçons. Aussi, pour nous récompenser, c'était le chef de tous les doyens qui venait assister à notre leçon en hélicoptère. Lui n'était pas seulement expert en mathématiques, mais également maître astronome. Et la nuit atomique dansait autour de nous. Et la rue Froidevaux, promenade irréelle, nous épiait sournoisement. Le banc squelettique, noyé dans un halo de brume jaune et qui semblait sourde de lui, nous reçut à regret. Seul le bec de gaz, pauvre silhouette filigrane, semblait nous porter quelque sympathie et nous souriait de compassion. Un chien passa, un fantôme de chien traînant ses os maigres au long du cimetière du Montparnasse, le spectre de la Camarde, avec, à la place des yeux, deux trous noirs et profonds et le poil humide d'une boue de sépulcre. « Oh, mon amour, ce cauchemar, encore, dis-le-moi !» Écrit à Rouen, le 3 septembre 1968.
Ce sera chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, si nom de Dieu, il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, qu'à quatre des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation, qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette les souvenez-vous, les n'oublie pas que la guerre est conne. Les recueillements sur les tours, où les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette les souvenez-vous, si nom de Dieu, il n'y avait. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petits tambours qui battent la cadence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions qui claquent au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaphandre de Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune, pour mille étés. Ce serait chouette d'aller sur la lune, si nom de Dieu, il y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la honte. Des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les pompes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour de radolie. On y ferait l'amour bien au chaud avec les gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. Oh ya la ya.
Catherine Sauvage à l'interprétation et évidemment une chanson d'Henri Tachant. Et maintenant, sur 6 minutes, bah, on a bien quelque chose.
Oui, alors la nouvelle section des poèmes à dire, Identité, avec pour ouverture un poème d'Eustache Deschamps. Alors, avant de le lire, juste quelques mots, parce que c'est du vieux français. Alors, vis signifie visage, traitis délicat, faux taille, plévis promet, aspère aimable franc, tout dit tous les jours. Alors, le poème s'intitule Virelai. Suis-je belle? Il me semble, à mon avis, j'ai beau front et doux vis et la bouche vermeillette. Dites-moi si je suis belle. J'ai verts yeux, petits sourcils, le chef blond, le nez traitis, rond menton, blanche gorgette. Suis-je belle? J'ai dur sein et haut assis, long bras, grêle doigt aussi, et par le faux, sucrelette. Dites-moi, suis-je belle? J'ai pieds rondes et petits, bien chaussons et beaux habits, je suis gaie et foliette. Dites-moi si je suis belle. J'ai manteau fourré de gris, j'ai chapeau, j'ai beau profit, et d'argent maintes espinglettes. Suis-je belle? J'ai drap de soie et tapis, j'ai drap d'or et blanc et bis, j'ai maintes bonnes chaussettes. Dites-moi si je suis belle. Que 15 en ait, je vous dis, moult et mes trésors jolis s'en garderaient la clavette. Suis-je belle? Bien devront être hardis ceux qui seront mes amis, qui auront telle demoiselle. Dites-moi si je suis belle. Et par Dieu, je lui plévis que très loyal, si je vis, lui serai si je ne chancelle. Dites-moi si je suis belle. S'il est courtois et gentil, vaillant, à Perse bien appris, il gagnera sa querelle. Dites-moi si je suis belle. C'est un mondain paradis que d'avoir dame tout dit, aussi fraîche, ainsi nouvelle. Suis-je belle? Entre vous, à couardi, pensez à ce que je dis. C'est fini, ma chansonnelle. Suis-je belle?
Merci.
C'est qui, ça?
Eustache Deschamps.
Josie n'a plus rien à cacher. Son chant d'amour est défriché. Sa marguerite était feuillée, au plus offrant elle dit cueillait. Sa plus intime cicatrice, elle en fait donc presque gratis. Mais sans sourire, elle réserve en pot, en bouquet, en conserve. Pour moi, mais son sourire, elle me le tend à la sauvette en fleur des champs. Josie n'a plus rien à rougir, plus rien à tricher, à mentir, pour prendre un lapin au collet. Elle montre plus que le mollet. Elle n'a plus remords ni pudeur. On la déflore chaque quart d'heure. Mais sans sourire, elle le donne en perles, en collier, en couronne. Pour moi. Mais son sourire, elle me le tend à la sauvette comme un diamant. Josie n'a plus personne à voir quand parfois elle pleure dans le noir, ni père ni mère à se confier.
ni Roméo à marier. Alors elle serre les dents, c'est tout, et ouvre un peu plus les genoux. Mais son sourire, elle le garde au propre chaud, dans sa mansarde, pour moi, ouais, pour moi. Mais son sourire, elle me le tend à la sauvette, comme un divan. Josie n'a plus rien à prier, ni Dieu, ni diable, ni bénitier. Elle peut même pas laver les pieds aux juifs errants recrucifiés. Elle lave autre chose et dit amen. Tout le monde n'est pas Marie-Madeleine. Mais sans sourire, elle me sauve des crocs et des griffes des fauves. Pour moi, pour moi. Mais sans sourire, elle me le tend à la sauvette, comme une enfant.
Ainsi va s'achever pour aujourd'hui Dessous de scène. Le temps que je cale un bulle noir, vous récapitulez ce que vous avez offert aujourd'hui comme texte.
Et là, c'est des textes de Patrick Denis.
En alternance, une sélection de poèmes faits par Daniel Gélin et un poème de Papy Jean.
Et Michel.
Et moi, je vous ai lu des textes de Marcel Schwab.
Prochain rendez-vous dans cette formation, c'est dans 4 semaines, quelque chose comme ça.
Je crois que ça va être début octobre qu'on se reverra.
Début octobre. Et les prochaines semaines seront en alternance avec Evelyne et moi. Voilà.
Pour les 4 semaines qui viennent.
Voilà. Et en octobre, Laurent aura des invités.
Ce sera la surprise.
Oui.
S'il arrive à trouver une date.
Normalement, il devrait faire le deuxième jeudi de la semaine prochaine. Sinon, le premier, on fera Sylvie Spassem. Et je ferai avec lui Faites-nous des chansons s'il a retrouvé sa voix. Voilà. Donc, il y a encore une quinzaine de jours pour chanter comme Caruso. J'espère que Sophie aussi retrouve sa voix aussi, en même temps.
T'as bien capté, Bulma, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, du libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby.
Ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Du libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, du libertaire. Radio Libertaire, on va parler de Paula, du Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Thank you.
on va pas parler polar, mais on va parler BD dans le cadre d'une rediff.
T'as bien capté, Bulle Noire.